VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel de ce lundi 22 juillet 2019. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. Il quitte en pleine bataille contre l'Ebola. Ce lundi, le ministre de la Santé de la RDC a claqué la porte du gouvernement. Le docteur Oli Ilunga Kalenga s'estime désavoué par le président congolais qui a décidé de prendre le contrôle de la riposte contre Ebola. De l'autre côté du fleuve, à Brazzaville, ce sont les sociétés de téléphonie mobile qui viennent d'être mises en demeure par l'autorité de régulation. Nous vous dirons pourquoi dans ce journal. Au moins 17 morts, c'est le bilan d'une explosion qui a frappé Mogadiscio, une attaque revendiquée par les islamistes Shebab. La CIA aurait-elle des espions en Iran? Téhéran répond oui et annonce avoir arrêté 17 Iraniens membres d'un réseau d'espions travaillant pour l'agence américaine. Washington dément. Et puis, ne manquez pas l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, on l'a appris ce lundi, le ministre de la Santé a démissionné de ses fonctions. Le docteur Oli Ilunga Kalenga s'estime désavoué par la décision du président Tshisekedi de prendre le contrôle de la riposte contre l'épidémie Ebola. Une épidémie qui a déjà tué plus de 1700 personnes en un an dans l'est du pays. Pour les détails sur cette démission, retrouvons Thierry Kabundi à Kinshasa.
Dans sa correspondance adressée à Félix Tshisekedi, le ministre de la Santé a dit tirer les conséquences de la décision prise par le chef de l'État le 20 juillet dernier de placer la coordination de la riposte contre Ebola sous sa supervision directe par le truchement d'un secrétariat technique. Je déplore que le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à Ebola ait été mis en place par un décret du Premier ministre antidaté au 18 mai 2019 et contresigné à mon insu par le ministre assurant mon intérim alors que je me trouvais en mission de supervision de la riposte à Goma, écrit le docteur Oli Ilunga, qui précise par ailleurs qu'il ne peut y avoir plusieurs centres de décision au risque de créer des confusions et une cacophonie préjudiciable à la riposte, d'où sa démission. Avec plus de 1600 morts à ce jour, l'actuelle épidémie d'Ebola qui ravage l'est de la RDC est la deuxième la plus importante dans l'histoire de la maladie après celle qui a tué près de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé l'a déclaré urgence sanitaire la semaine dernière. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La RDC également, où une personne a été tuée dans un échange de coups de feu entre des forces de sécurité et des occupants d'une ferme. Cette enceinte est soupçonnée d'héberger des auteurs présumés de l'assassinat d'un chef coutumier du Sangourou au centre du pays. Yacouba Ouedraogo.
La police et l'armée ont mené une opération dans la ferme Ndjeka, à 25 km à l'est de la cité de Lodja. Nous avons essuyé des tirs venant des hommes armés et nous avons répliqué. Un des hommes armés a trouvé la mort et nous en avons capturé 16, a déclaré une source policière sous anonymat. Cette même source affirme avoir des informations selon lesquelles cette milice est dirigée par Oumindo alias Omera et que c'est elle qui a tué un chef coutumier vendredi dernier. Elle a ajouté que ce même groupe avait tué un policier en octobre. Le calme a régné dans la province du Sankourou après l'élection sous tension samedi du nouveau gouverneur Joseph Stéphane Mukamadi qui a battu Lambert Mende, ancien ministre et porte-parole de l'ancien régime. Le Sankourou était la dernière des 26 provinces de la RDC où l'élection du gouverneur n'avait pas eu lieu.
Ajoutons à propos de la RDC que les autorités de Kinshasa interdisent l'organisation cette semaine de toute marche politique dans la capitale à cause du climat tendu entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. C'est du moins ce qu'indique la police. Son chef, le général Silvano Kasongo, a fait savoir à la télévision nationale qu'il a instruit la police de prendre des mesures idoines. Toute personne qui osera marcher ou troubler l'ordre public pendant cette semaine va trouver la police sur son chemin, a-t-il souligné. Le dialogue politique entre la majorité et l'opposition consacré à la situation nationale et aux élections de 2020 au Burkina Faso a abouti à un large consensus. C'est ce qu'on apprend du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Ce dialogue politique a réuni pendant une semaine au palais présidentiel une quarantaine de participants issus des différentes composantes de la classe politique. Sur l'organisation des élections de 2020, nous avons fait l'effort important d'aboutir à un consensus total et de débroussailler des questions qui paraissaient contentieuses au point qu'à ce jour, il n'y a qu'une question qui reste en suspens, l'utilisation éventuelle de la carte consulaire biométrique comme document électoral, a indiqué M. Diabré. En France, un homme soupçonné d'être l'auteur de l'agression qui a tué Mamoudou Barry, un enseignant-chercheur guinéen près de Rouen, a été identifié. Le suspect, de nationalité turque selon les sources policières, né en 1990, a été interpellé ce matin à Rouen, mais des sources indiquent qu'il a été relâché en raison de problèmes médicaux. Il aurait des antécédents psychiatriques. D'après un proche de la victime, le jeune chercheur de 31 ans, père de famille, a été pointé du doigt par son agresseur et aurait été la cible d'insultes racistes à la hauteur d'un arrêt de bus alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec son épouse. L'agresseur l'a frappé à coups de poing et de bouteille, ajoute Maître Haddad, avocat de la famille. Cette agression a suscité dimanche une cascade de réactions politiques, y compris des présidents guinéens et sénégalais. Et ce drame en Somalie, au moins 17 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un véhicule piégé près d'un point de contrôle situé sur la route d'accès à l'aéroport de Mogadiscio. Une attaque revendiquée par les islamistes Shebab. Plus de précisions avec Blanche Sanou.
L'explosion s'est produite au premier point de contrôle sur la route qui mène à l'aéroport de Mogadiscio. L'hôpital Madina de la ville a reçu 17 corps et 28 blessés, dont 12 dans un état critique, affirme le directeur de l'hôpital, Mohamed Youssouf. L'opération a été revendiquée par les Shebab qui ont reconnu avoir utilisé un véhicule rempli d'explosifs. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale somalienne. Ils contrôlent toujours de vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Le groupe lié à Al-Qaïda tente de renverser le gouvernement somalien, soutenu par le gouvernement des États-Unis.
Au moins 6 manifestants chiites du mouvement islamique du Nigeria ont été tués dans des heurts à Abuja ce lundi dans un nouvel épisode de violence de plus en plus fréquent avec les forces de l'ordre pour demander la libération de leur chef Ibrahim Zakaki. Ce dernier est incarcéré depuis décembre 2015 avec son épouse pour homicide et rassemblement illégal. La chaîne de télévision nigériane Channels a également fait savoir que l'un de ses reporters avait reçu une balle sans donner de détails sur son état de santé. Le porte-parole de la police, Frank Ba, a publié un communiqué pour demander aux habitants d'Abuja, la capitale fédérale, de rester calme.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La CIA aurait-elle des espions en Iran? Possible si l'on en croit Téhéran qui annonce ce lundi avoir arrêté 17 Iraniens entre mars 2018 et mars 2019 dans le cadre du démantèlement de ce que les autorités sur place qualifient de réseau d'espions de la CIA. Mais à Washington, le président américain dément cette information. Les précisions d'Abdourahman Dia.
Sur Twitter, Donald Trump a qualifié l'annonce des Iraniens de totalement fausse, qualifiant le régime de Téhéran d'échec et qui ne sait pas quoi faire. Le chef du contre-espionnage au ministère du renseignement iranien a annoncé ce lundi, je cite, « Ceux qui ont délibérément trahi leur pays ont été remis à la justice. Certains ont été condamnés à mort et d'autres à de longues peines de prison. » Il a précisé que les suspects étaient employés dans des secteurs sensibles ou dans des activités privées liées à ces secteurs. Les suspects agissaient indépendamment les uns des autres, a-t-il ajouté. Selon le responsable iranien, certains avaient été recrutés en tombant dans un piège tendu par la CIA alors qu'ils étaient en quête de visa pour se rendre aux États-Unis. La publication de détails sur cette opération de contre-espionnage iranien survient dans un contexte d'extrême tension entre l'Iran et les États-Unis, plus d'un an après le retrait unilatéral américain de l'accord international sur le nucléaire iranien et sur fond d'escalade militaire dans le Golfe.
Et puis les démocrates et l'administration Trump sont proches d'un accord pour relever le plafond de la dette des États-Unis afin d'éviter un défaut de paiement si le pays ne pouvait plus emprunter. C'est ce qu'indiquent ce lundi des sources proches des négociations. Cet accord presque final qui porterait la validité de la nouvelle limite jusqu'à fin juillet 2019 prévoit aussi la hausse des dépenses publiques en relevant le plafond budgétaire pour la dépense et pour des investissements nationaux, a relevé une source. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La compagnie nationale libyenne de pétrole NOC a annoncé ce lundi la reprise des exportations depuis le terminal pétrolier de Zawiya et de la production sur le plus grand champ pétrolier du pays, suspendu après le sabotage d'un pipeline. La production des champs pétroliers de l'ouest de la Libye est régulièrement arrêtée en raison de blocages imposés par des milices qui font office de garde des installations pétrolières pour réclamer des rémunérations ou pour motivation politique. La NOC avait conditionné la reprise de la production au départ des groupes armés du champ pétrolier, ce qui a eu lieu début mars. Le Nigeria et la société allemande Siemens ont convenu d'une feuille de route pour augmenter l'approvisionnement en électricité du Nigeria à 7000 MW d'énergie fiable d'ici 2021 et atteindre 11000 MW d'ici 2023. Selon le président Muhammadu Buhari, à l'heure actuelle, seulement 4000 MW en moyenne atteignent de manière fiable les consommateurs nigérians. Pour terminer, le Zimbabwe a augmenté les prix du carburant ce lundi pour la deuxième fois en une semaine. Selon l'autorité zimbabwéenne de régulation d'énergie, un litre d'essence coûte désormais 7,45 dollars zimbabwéennes, soit une hausse de 22%. Le diesel coûte désormais 7,19 dollars zimbabwéens le litre, soit une hausse de 23%. Les prix du diesel et de l'essence ont augmenté de 456% cette année, parallèlement à la baisse de la valeur de la devise RTGS locale, renommée le dollar zimbabwéen le mois dernier.
Et nous retrouvons Yacouba Ouédraogo pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par Hervé Reina, qui n'est plus le sélectionneur du Maroc.
Oui, le technicien français a annoncé sa démission dans un communiqué posté sur son compte Twitter, deux semaines après l'élimination surprise de son équipe lors de la CAN. Il est temps pour moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse, mais c'est une décision inéluctable, prise bien avant la CAN 2019, a déclaré Hervé Reina, arrivé en 2016 et resté 41 mois, à la tête de l'équipe nationale marocaine. À la surprise générale, le Maroc, quart de finaliste lors de la dernière édition, a été éliminé dès les huitièmes de finale par le Bénin.
Quant à Antoine Griezmann, il donne son cœur au Barça.
L'attaquant français nouvellement transféré de l'Atlético Madrid au FC Barcelone a déclaré qu'il était impatient de débuter avec les Blaugrana, ajoutant que son cœur est désormais avec ses nouveaux coéquipiers. « Je me concentre sur mon intégration parmi les joueurs de Barcelone. Mon cœur est ici avec eux », a-t-il affirmé à Tokyo, où le Barça est actuellement en tournée. Pour faire venir le champion du monde français, le Barça a payé sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Mais le club madrilène conteste ce montant et réclame un total de 200 millions d'euros.
Et puis Marseille, premier vainqueur de l'EA Ligue 1 Game.
L'Olympique de Marseille a remporté le tournoi promotionnel du football français aux États-Unis en battant Saint-Étienne en finale 2-1 hier ici à Washington DC. Mais l'OM a vu son milieu de terrain Luis Gustavo sortir sur blessure, touché à une cheville. L'OM s'est imposé grâce à un but de Dimitri Payet, meilleur buteur du tournoi avec 3 réalisations et le premier but olympien du Serbe Nemanja Radonjić. Marseille avait déjà perdu Florian Thauvin sur blessure, absent encore au moins 3 semaines, après s'être tordu la cheville droite à Glasgow lors de la défaite contre les Rangers 4-0.
Et en athlétisme, la Kenyane Hélène Obiri, meilleure performeuse mondiale sur 5000 mètres.
Ce fut l'un des temps forts du meeting de la Ligue de Diamants de Londres. Le 5000 mètres a été dominé par une irrésistible Hélène Obiri en 14 minutes 20 secondes sur la piste qui l'avait sacrée championne du monde de la distance en 2017. La cinquième meilleure performeuse de l'histoire a su mater la concurrence. La néerlandaise Sifan Hassan n'a rien pu faire contre Obiri dans les 300 derniers mètres, se contentant de la troisième position, avec tout de même un beau record d'Europe à la clé, 14 minutes 22 secondes. Chez les hommes, c'est le Chinois Zhenye Ziyi qui a fait le spectacle sur 200 mètres en battant le record d'Asie 19 secondes 88 centièmes. Il devient le 6e meilleur performeur de l'année.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, John Lyndon, en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par Brazzaville, au Congo, où l'Agence de régulation des postes et communications électroniques a mis en demeure les sociétés de téléphonie mobile qui vendent des cartes et SIM non enregistrées. Mais les usagers critiquent cette sanction. Beaucoup estiment plutôt que les opérateurs téléphoniques devraient être punis pour la fourniture de leurs services dont la qualité reste à désirer. Suivant ce reportage d'Assène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
La mise en demeure des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile au Congo vise notamment les faiblesses dans la sécurisation des cartes SIM qui sont aujourd'hui achetées comme des bouts de pain sur les marchés. Pour les directeurs des réseaux et services de communication électronique à l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques du Congo, Marc Sakala, les opérateurs ont un mois pour se remettre en ordre.
La loi dit qu'il faut d'abord mettre en demeure avant de sanctionner, pour qu'il rentre dans l'ordre. Parce qu'on peut sanctionner et que les arnaques continuent et se prolifèrent derrière.
MTN, l'un des opérateurs indexés, dit avoir pris acte et promet une amélioration de la situation. Patrick Itsoa, directeur corporate affaires.
Nous avons pris bonne note de la mise en demeure du régulateur. Nous avons mis en place une task force qui justement a commencé à travailler dès le premier jour, mettre en place des plans pour répondre aux besoins de la population, notamment sur la sécurisation de leur compte mobile money contre les arnaques. Pour ce qui est des cartes SIM préenregistrées, telles que présentées, c'est un peu plus complexe. Je ne voudrais pas m'étendre ici sur des desiderata.
Mais en réalité, les usagers des téléphonies mobiles ont d'autres soucis au Congo.
Chaque fois, on nous dit on a amélioré, on a changé. Mais au quotidien, quand on utilise le téléphone, on se rend compte que non, rien ne change. Et c'est pas bien. On peut acheter du crédit, on peut mettre du forfait. Que vous l'ayez utilisé ou pas, dans les délais, ça part. Et ça nous dérange. Il ne faut pas que ça soit comme de l'arnaque.
Il y a une arnaque, que ça soit sur les prix, pas que sur le bas de la voix, sur Internet, partout, c'est du foutage de gueule. La technologie ne suit pas. Les autres sont en train de passer au 5G. Et nous, ici, même le 3G, on n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Téléphoner de Pointe-Noire à Brazzaville, même entre voisins, ça devient compliqué. Alors qu'on paye les services. Quand tu les appelles ou quand tu vas voir quelqu'un là-bas au guichet, ils vont te dire oui, on va arranger le problème. Et c'est du foutage de gueule.
Des manquements de la part des opérateurs que le régulateur a sciemment ignoré alors qu'une enquête menée au cours du troisième trimestre éclabousse deux sociétés qui ne font même pas mieux pour la 2G. Mais pourquoi n'avoir pas publié ce rapport, Marc Sakala de l'ARPCE?
Ces résultats, nous l'avons partagé avec les différents opérateurs. Les indicateurs de performance étaient très bas pour tous les opérateurs de la place. Nous n'avons pas publié ces résultats au niveau de la presse comme nous le faisons habituellement pour la simple raison que nous sommes conscients qu'en ce moment, il y a beaucoup de situations que rencontrent les opérateurs, à savoir les migrations de la 3G à la 4G demandent beaucoup de travaux supplémentaires.
En 2015, Airtel et MTN avaient écopé d'une sanction pécuniaire affectant 1% de leur chiffre d'affaires. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À présent, direction le Sénégal, où l'on continue de parler de ces défis relevés par deux jeunes pilotes sénégalais. Dans le sillage des pionniers Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, ils ont effectué un vol entre Saint-Louis au Sénégal et Paris à bord d'un petit avion de 4 places. Et le vol retour a eu lieu il y a quelques jours. Ils ont atterri dans leur aéroclub de Dakar, où des dizaines de personnes étaient venues les attendre. Le reportage est d'Alison Lekogo Fernandez.
Exténué mais heureux, Biram Koulibaly, 36 ans, et Maoud Ndiaye, 25 ans, sont de retour au bercail après avoir passé plus de 50 heures dans les airs en quelques jours, avoir foulé le sol de 5 pays différents dans le sens aller, retour, et parcouru près de 10 000 km. Un rêve d'enfant pour ces deux natifs de Dakar, dont l'un, le plus jeune, est pilote professionnel, et l'autre, agent dans le marketing, mais passionné d'aviation. Le projet s'est concrétisé il y a quelques mois à peine, en février dernier, au cours d'une conversation entre les deux amis, Maudon Diaye.
Biram et moi, on s'est assis au niveau du bar de l'aéroclub et on s'est dit pourquoi pas ramener un avion jusqu'en France, quoi. Parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de rallyes qui venaient d'Europe. On s'est dit pourquoi pas essayer de faire l'aéropostal de Jean Mermoz dans le sens inverse.
Siège.
Réglé.
Fun Park.
En place.
En 4 mois, les deux compères trouvent des sponsors pour financer leur projet, mettent leur petit avion de 4 places aux normes internationales, préparent leur itinéraire et s'occupent de la maintenance de leur engin qui ne dépasse pas les 5h30 d'autonomie. Un vrai défi technique, logistique et humain pour les deux pilotes. Biram Koulibaly.
Arrivé en France, en fait, quand on a atterri, déjà Mando et moi on s'est regardé, on s'est dit on y est. Et ensuite, quand on a roulé pour aller au parking, on ne se rendait pas compte qu'il y avait autant de monde qui nous attendait, en fait. On a vu le monde, on s'est dit, mais waouh, mais c'est quoi tous ces gens, ils viennent d'où? Et ça, ça nous a énormément touchés. Et je peux vous dire que le moment de garder l'avion, ben, on était en train de trembler, Maudou et moi. Déjà, on avait peur de descendre et surtout, on avait une petite fierté de se dire, on l'a amené jusqu'ici, cet avion, en fait.
Lors de ce premier exploit, Biram et Maudou ont pris goût au défi. Ils souhaitent, d'ici quelques mois, partir à la conquête de l'Afrique avec leur petit monomoteur. Mais avant, ils ont à cœur de se rendre dans les écoles sénégalaises pour partager leur expérience et faire comprendre à la jeunesse de leur pays qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Des jeunes qui font également l'objet d'attention ici aux États-Unis. L'éducation est l'un des sujets phares des candidats démocrates à la présidentielle de 2020, surtout dans leur quête de soutien auprès des jeunes. Ces derniers sont devenus majoritaires dans le corps électoral, remplaçant la génération des baby-boomers. Mais l'éducation n'est pas la seule préoccupation de cette tranche de la société. D'autres questions d'ordre social font probablement aussi les motiver à se rendre aux urnes en 2020. C'est un reportage de Sahar Majid avec le récit d'Abdourahmane Dia.
Pour Samantha McAllister, une étudiante en troisième année à l'American University de Washington, D.C., les coûts de scolarité élevés et l'endettement des étudiants sont les principaux défis de sa génération.
Les frais de scolarité sont devenus trop élevés pour les étudiants, même dans les écoles d'enseignement professionnel et les universités d'État. C'est de la folie dans les universités privées comme la mienne et on ne figure même pas parmi les établissements les plus chers du pays.
Sonsia Coleman du groupe de plaidoyer Young Invincible est du même avis.
Je pense que l'enseignement supérieur et la dette des étudiants sont un grand problème. Cela affecte la possibilité pour les jeunes adultes d'aller à l'école et pour les milléniaux d'acheter une maison ou d'avoir des enfants. Cela a un impact sur leur vie et leurs opportunités économiques.
Les candidats démocrates offrent différents programmes pour attirer les jeunes électeurs. Certains sont plus réalistes que d'autres. Douglas Harris de Brookings Institute.
Je pense que le programme le moins probable est celui de la remise de prêts. Un programme qui effacerait toute la dette des étudiants est peu probable. Ça coûte très cher et ce n'est pas une bonne politique. Mais l'éducation supérieure gratuite est possible. Peut-être la version la moins chère est la formation professionnelle ou la gratuité à l'université.
Mais il n'y a pas que l'éducation qui préoccupe les jeunes électeurs. Sonsia Coleman de Young Invincible.
Il y a aussi la santé. Nous avons fait de grands progrès avec Obamacare en baissant le nombre de non-assurés parmi les jeunes. Mais nous constatons un impératif moral pour certains jeunes à qui nous avons parlé. Ils veulent vraiment la couverture médicale universelle. Mais c'est aussi une question économique pour certains d'entre eux à cause des salaires qui ne bougent pas ou des choses comme ça.
Un sondage de Harvard University effectué il y a quelques mois montre que les jeunes sont plus nombreux à soutenir Joe Biden et Bernie Sanders. Mais récemment, la sénatrice Elizabeth Warren et le maire de South Bend dans l'Indiana ont vu leur cote de popularité augmenter chez les jeunes. Même s'ils sont devenus majoritaires parmi les électeurs, les jeunes n'ont pas l'habitude de se déplacer massivement le jour du vote. Cette donne est toutefois en train de changer lentement et les candidats en sont conscients, ce qui expliquerait cette floraison d'idées dans leur programme pour attirer les jeunes Américains.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et on reparle de la liberté religieuse dans le monde. Le vice-président américain Mike Pence a ouvert en fin de semaine au département d'État ici aux États-Unis des ateliers-conférences de 3 jours sur la liberté religieuse dans le monde. Plusieurs personnalités politiques et acteurs dans le domaine religieux étaient également présents. Que retenir de cette rencontre? Eric Manirakiza s'est entretenu avec Jean-Pierre Karegeï, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie. Il fait des recherches sur les questions religieuses et de génocide.
Les gens se rendent compte de plus en plus de l'importance de l'élément religieux, c'est-à-dire se rendraient compte que les questions sociales, politiques, économiques ne peuvent pas être séparées avec la croyance des gens. Et ça, c'est un élément que j'ai trouvé assez important et que au niveau des États-Unis, par exemple, que les membres du gouvernement soient là, et c'est qu'ils se rendent compte vraiment de l'importance de cet élément. Et je crois que c'est aussi lié à leur histoire politique.
Quels sont les enjeux pour l'Afrique, par exemple?
Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux pour l'Afrique. C'est vrai, ce n'était pas une réunion sur l'Afrique en soi. Le thème, c'est vrai, central, c'était la liberté religieuse. Et donc, je crois que pour l'Afrique, l'élément de la religion ou de la persécution religieuse est aussi lié à ce qui est en train de se passer dans plusieurs pays africains actuellement. C'est pas né en Afrique, mais les conflits qu'on a, que ce soit au Nigeria avec les Boko Haram, d'ailleurs dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, et maintenant au niveau même de l'Afrique de l'Est, que ce soit aussi au niveau de l'Afrique centrale, entre chrétiens et musulmans, et même l'Est du Congo, Ouganda et Kenya dans une certaine mesure, Somalie évidemment. Bon, je crois que l'Afrique ne peut pas être indifférente à ce phénomène, même si ça a été importé.
Et pour la région des Grands Lacs, la RDC, le Rwanda, le Burundi, est-ce qu'on voit ce genre de violence?
Disons, il y a deux choses ici. Dans d'autres pays, quand on parle par exemple de la liberté de culte, c'est qu'en général, des minorités religieuses sont opprimées dans un certain nombre de pays. Et ça peut être un phénomène d'abord religieux, c'est-à-dire les grandes religions où les majorités, par exemple, s'attaquent à des minorités, ne permettent pas aux autres d'exercer leur foi. Et ça peut être aussi des phénomènes des États qui s'attaquent aussi à des religions. Donc ça existe. Mais au niveau des Grands Lacs, chaque pays a ses réalités. Par exemple, au niveau du Congo, la Conférence épiscopale nationale joue un rôle très 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 important. Et ça a toujours joué un rôle important depuis le temps de Mobutu, par exemple, sur la démocratisation du pays. Il y a eu plusieurs documents des évêques. Et l'Église est présente au niveau des actions sociales aussi. Au niveau du Rwanda, c'est vrai, on a eu à ces tragédies où l'Église était liée, donc où la question, par exemple, qu'on se poserait, comment est-ce que la foi n'a pas pu sauver des gens? Ça, c'est la question qu'on se poserait. Mais donc, je ne vois pas en soi un phénomène de persécution religieuse, me semble-t-il, dans les pays des Grands Lacs.
La décision du gouvernement de fermer certains liens de culte, est-ce qu'on peut le prendre dans ce cadre-là?
Quel gouvernement?
Du Rwanda.
Ok, d'accord. Oui. Non, je pense que pour le cas du gouvernement du Rwanda, je ne crois pas qu'il y ait une seule religion ou quelqu'un à qui on a interdit, par exemple, d'exercer sa foi, loin de là. Mais je crois que c'est plutôt l'amélioration des lieux des cultes. C'est-à-dire, si nous considérons la liberté religieuse, elle doit s'exercer aussi dans un cadre décent.
Jean-Pierre Karegeï, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie, ici aux États-Unis. Et c'est la fin de cette édition mise à nom de par Joselle Morissin. Dubensky était à la console. John Lyndon était à la présentation de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.